Eh ben, je voulais te féliciter, Daniel, parce que l'autre jour, suite à ton émission aux Antilles, Motta, il a bien compris la leçon, hein. Il faut les foutre à la porte, ces blancs, ces béquets, ces colonisateurs, hein. T'as obtenu ce que tu voulais. Moi, ce qui m'étonne un petit peu, Daniel, c'est que le procureur de la République, il t'est pas foutu aussi en examen pour ça, hein. Pour racisme, discrimination, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Ben, tu es un beau salopard, Daniel. Hein, et c'est Paul qui te le dit.
Oui, bonjour Franck, dans le Vaucluse. Une petite question à partir de deux phrases. Les béquets qui ne respectent pas l'accord doivent quitter la Guadeloupe. Deuxième phrase, la France, on l'aime ou on la quitte. Et là, quelle est la phrase qui incite le plus à la haine raciale, je vous le demande. Merci.
Domota a dit, les patrons qui veulent pas appliquer l'accord qui a été signé, ils doivent se casser de Guadeloupe, et tout le monde dit scandale, scandale, scandale. Voilà, ben, tous les jours, quoi, dans nos entreprises, on dit fais des heures sans être payé ou casse-toi, prends ce salaire de merde ou casse-toi, et là, il n'y a pas scandale, quoi. Et c'est tous les jours, quoi. C'est vas-y, fais ce que je te dis, il y a 10 000 personnes qui attendent derrière. Voilà, ça, c'est tous les jours, quoi. C'est tous les jours. Et là, là, il n'y a personne, non. Même le PS, il dit pas, c'est pas normal. Non, 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 que dalle. Rien à foutre, quoi. Donc, c'est toujours les mêmes, quoi. C'est toujours les patrons. Les patrons victimes. Alors ça, ça, franchement, j'en ai ras le cul, quoi.
Bonjour Daniel et bonjour à tous. Voilà, je voulais simplement apporter un démenti à tout ce qui se dit dans les médias actuellement, à savoir que tous les problèmes en Guadeloupe sont solutionnés. Un accord a été trouvé avec le LKP. La réalité est tout autre, et je tiens absolument à en témoigner aujourd'hui, c'est que les grèves ont repris, et de plus belle, à savoir que la sécurité sociale ne fonctionne pas, la caisse d'allocation familiale ne fonctionne pas, la SARA s'est mise en grève, que tous les organismes, les uns après les autres, réclament leur part du gâteau et veulent aussi des augmentations de salaire. Quand Sarkozy et son pantin de secrétaire général, secrétaire d'État, pardon, à l'outre-mer, se gargarisent d'un accord trouvé, il n'en est absolument rien et tout le monde se fige de notre situation aujourd'hui. On nous coupe l'eau, on nous coupe l'électricité, on vit maintenant depuis 7 semaines dans des conditions absolument épouvantables. Il faut que tout le monde le sache, rien n'est arrangé et c'est de pire en pire. Ce que je crains maintenant, c'est que nous ayons une véritable crise sociale parce que tout le monde en a ras-le-bol. Il n'y a qu'une seule société aujourd'hui ou des sociétés qui fonctionnent bien, ce sont celles du secteur de déménagement. Parce que tous les métros, et un immense donc flot de métros s'en va, quitte la Guadeloupe, et parce que ça devient véritablement invivable. Je vous parle en ce moment, pas d'eau, pas d'électricité, et encore des files d'attente interminable devant les stations essence parce qu'il va bientôt ne plus y avoir d'essence, elles ne seront plus approvisionnées. Voilà la réalité des choses. Je tenais absolument à apporter un démenti formel à tout ce qui se dit dans les médias. Je vous souhaite bon courage à tous. Eh bien, écoutez, c'est Joël depuis la Guadeloupe. Au revoir.
Oui, bonjour tout le monde. Ici, c'est Christian, là, de Quimperlé. Et j'ai un message, moi, pour monsieur Élie Domota. Parce que je viens de apprendre que, bien sûr, ce brave homme, on va trouver le moyen de lui faire des soucis. Il y aurait une plainte pour, comment dirais-je, encouragement à la haine raciale, parce qu'il a déclaré que si les accords n'étaient pas appliqués par le patronat, il demanderait au patron de quitter la Guadeloupe. Alors, je trouve ça assez formidable, quand même, qu'on aille enquiquiner ce brave type-là qui a mené le combat pour les Guadeloupéens. Alors que dans le même temps, on a vu l'autre jour à la télévision un brave béquet qui déclarait, comme ça, sans sourciller, que lui, il n'avait pas voulu se mélanger avec les Noirs parce qu'il voulait préserver la pureté de la race. Alors c'est celui-là, oui, qu'il faudrait mettre en examen pour racisme et, comment dirais-je, encouragement à la haine raciale.
Quand je vois des familles métissées, enfin blancs et noirs, les enfants sont de couleurs différentes. Il n'y a pas d'harmonie.
À l'un des pointes.
Il y en a un qui sort avec des cheveux comme moi, il y en a qui sort avec des cheveux comme lui, dans la même famille, avec des couleurs de peau différentes.
Les derniers maîtres de la Martinique.
Moi, je vous passe ça bien, c'est pas...
Documentaire.
Non, on a voulu préserver la race.
Donc voilà, donc c'était pour un encouragement à Élie Domota, pour lui dire qu'on est nombreux ici en métropole à le soutenir et à être très admiratif sur le LKP et le mouvement des Guadeloupéens. Allez, salut à tous les AMG, ciao.
Oui, bonsoir, c'est Gabriel Glissant de la Martinique. C'est à propos de ce qui se passe en Martinique en ce moment. Bon, je voulais intervenir. Monsieur Sarkozy veut moraliser le capitaliste qui commencerait à moraliser un peu les béquets dans ce pays. Parce qu'on n'est pas tout ce chaos, toute cette haine encore. C'est ça, c'est un peu à faute du gouvernement français, de tous les gouvernements français jusqu'à maintenant. Tout ce qui se passe en Martinique. Le peuple est révolté. Alors, il faudrait que Monsieur Sarkozy ose intervenir vis-à-vis de ce protéger béquets. Ce que la France a toujours soutiré sur un peuple noir. Il faut que ça cesse. Ce n'est pas du racisme, c'est du ras-le-bol. Et j'espère que vous allez passer ce message, messieurs. Merci.
C'est pas du racisme, c'est du ras-le-bol. En tout cas, ça chauffe, non seulement évidemment sur le répondeur de la base où j'y suis, mais en Martinique. Et on l'entend encore en Guadeloupe. C'est vrai qu'il n'est pas facile d'exiger de tous de faire la différence entre l'exploiteur blanc et les blancs en général. C'est cette confusion qui effectivement est présente. On peut pas dire le contraire, mais c'est très difficile évidemment de faire disparaître d'un coup de baguette magique ces siècles d'exploitation et de domination. Et c'est très difficile, effectivement, d'exiger que chacune des victimes et des descendants de ces victimes sachent faire la différence entre l'exploiteur qui était blanc et les blancs en général. C'est la question de la race et de la classe. Et comme dit cet auditeur de Martinique, c'est pas du racisme, c'est du ras-le-bol. Aujourd'hui, on sort un petit peu de nos sujets qui suivent l'actualité ou qui l'expriment ou qui la racontent pour faire un pas de côté un peu. Un pas de côté dans un grand classique de là-bas si j'y suis sur la peur et sur la mort et sur le meurtre. Et si on les tuait? Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour Daniel, bonjour à tous les AMG, c'est Bruno du Finistère. Voilà, puisque le gouvernement nous abreuve de chiffres depuis quelques mois, je voudrais simplement dire une chose. Si un smicard était augmenté par mois de 350 euros, et ce pendant 20 ans, cela ferait exactement un mois de salaire de la présentatrice de TF1 du 20h. Salut à tous.
Bonjour, c'est Martine. Bonjour Daniel et bonjour à tous les auditeurs modestes et géniaux. C'est pour vous annoncer le prochain repère du 14e. Il aura lieu le dimanche 15 mars à 20h, toujours au Magique, 42 rue de Gercovy dans le 14e. Donc, à bientôt. Amitié à tout le monde. Au revoir.
Paris, février 2009. Il était 19h et nous attendions notre train devant les voies de la gare Montparnasse, raconte l'une des enseignantes. Après le passage d'un groupe de manifestants étudiants qui chantaient, les CRS ont surgi très vite. Les témoignages semblent concorder. Venus de plusieurs endroits à l'issue de la manifestation qui a lieu à l'extérieur, une trentaine de policiers chargent en direction des étudiants. Sauf que cela se passe dans un hall de gare bondé à 7h. On s'est retrouvés coincés, raconte l'un d'eux. On criait qu'on était des collégiens, mais rien à faire. J'ai pris des coups de matraque aux jambes et aux poignets. Une dizaine d'autres élèves sont frappés. J'ai été plaqué contre un distributeur de boissons, raconte l'une des professeurs, en temps cervical. Et pas une explication. Alors je suis allé voir le lieutenant. Cela se passait bien en France, en 2009. Un petit rappel à tous, qui mériterait justement d'être répété partout où on peut voir des policiers et des citoyens. Article 12 de la Constitution. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée. Qu'on s'en souvienne et qu'on s'en souvienne très très fort. Éric Libourne, petit-fils de républicain espagnol.
Salut Daniel, message à tous les AMG de Verdun et ses alentours dans la Meuse. Eh bien, le premier café repère de la Basse-Gisuie se tiendra mardi 10 mars 2009 à 20h à l'Estaminet. C'est le bar bien connu sous le nom de l'Estam qui se trouve au 45 rue des Rouillés à Verdun. Pas de thème particulier pour cette première rencontre, nous les définirons en commun pour la suite. Voilà, un mardi avec vos envies et vos idées, c'était Patrick de la Meuse.
Le repère d'Aix-en-Provence vous donne rendez-vous demain, mardi 10 mars à 19h30 au Café Le Festival, en bas du cours Mirabeau. Le thème du débat, comment transformer le système politique en place? Quel rôle peut tenir le citoyen? De quels outils et moyens dispose le citoyen pour la mise en œuvre de ces changements?
Allô, hola, hola, salut à toi Daniel et ton équipe, de nouveau des nouvelles proches des frontières espagnoles, la bannière de Bigorre. Aujourd'hui c'est l'EMG qui s'adresse aux AMG. Alors EMG c'est quoi? Enseignement mobilisé contre la guillotine. La guillotine des réformes actuelles de l'éducation nationale, une lame bien huilée et sourde. Aussi, nous nous adresserons le mardi 10 mars à la Halle au Grain de Bannière de Bigorre à ceux qui veulent comprendre et peut-être découvrir l'étendue des dégâts. Les premières têtes à tomber sont celles de ces enseignants attachés à la notion de service public. Les prochaines seront-elles celles de nos enfants, noyés dans des échecs scolaires, dans des classes trop nombreuses, etc. La culture du résultat risque de faire une belle addition. Rendez-vous donc à 20h30 à la Halle au Grain de Bannière de Bigorre pour information et débat sur ce thème. C'était David, auditeur fidèle de votre émission. Salut.
Bonjour. Hier au Zénith, Patrick Le Yarrick nous a pondu un slogan impulsé par les Antilles. Luttons plus pour gagner plus. Moi je trouve pas mal ce slogan. Au revoir, Marie-Paul de Villejuif.
Salut, c'est Daniel Mermeil, avec Isabelle Magosque-Crentier, là-bas où j'y suis. Et si on y était... Ça, ce que vous venez d'entendre, est autorisé. En revanche, ce qui suit est interdit.
Venez, soulevez-moi ma jupe. Retirez-moi mon slip. Rentrez-moi un doigt dans le cou. N'en ayez pas peur. Ça ne mord pas.
Au commencement, était le meurtre. Aujourd'hui, chaque télé est un peu un charnier. Prenons un dimanche ordinaire. Combien de morts dans chaque télé? Combien de crimes, de meurtres et d'assassinats? Flingues, cordes, couteaux, barbaques et gueules ouvertes, ça baigne dans le sang. Spectacle ordinaire, entre deux bières, entre le berceau du petit, le napperon de grand-mère. Pourquoi cette fascination? Exorcisme ou jouissance? Conjuration ou inspiration? Tuer est une très vieille coutume. Le plus vieil acte du monde. Caïn, chez nous, tue Abel, son frangin. Dans d'autres mythologies fondatrices, l'homme naît du meurtre. Au fond de l'homme, le meurtre. Racine, passionnelle et pulsionnelle. Avez-vous déjà pensé à tuer quelqu'un? Voilà la question que nous avons posée avec Isabelle à quelques-uns. Tu ne tueras point. Eh oui, il a fallu le dire et le répéter, en faire un commandement. C'est que ça n'allait pas de soi. Il fallait un péché, un tabou, une limite. Ne pas tuer, c'est de la culture. Et on sait ce que c'est, la culture. Pulsion, donc,
inconsciente qui s'exprime le plus souvent à travers, Dieu soit loué, une image, une représentation, mais quelquefois, à la suite d'un déséquilibre émotionnel que la plupart du temps rien ne laisse présager, eh bien, on passe à l'acte.
Ezekiel 25:17. The path of the righteous man is beset on all sides by the inequities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who in the name of charity and goodwill shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper and the finder of lost children. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee.
C'est quand mon père me compte dessus ou une note des claques.
Et alors, t'as envie de quoi dans ces moments-là?
Bah, de le tuer.
Et tu lui as dit déjà?
Non, jamais, mais ça se voyait.
Et t'as eu l'idée de la façon dont tu tuerais ton père?
Bah oui. Pas surprise, quand il dormirait, bah, je prendrais les ciseaux et puis je le tuerais.
Ah oui?
Oui.
La nuit dans son lit?
Oui, puisque sinon je vois pas comment je pourrais le faire.
Ouais. Avec les ciseaux?
Avec les ciseaux, puisque pour moi c'est le truc qui coupe le mieux. Mmh. Même qu'un copain s'est coupé les doigts et la langue avec.
Ah bah oui.
Ouais.
Mais alors tu lui ferais quoi avec les ciseaux?
Non, bah, je le planterais. Dans le dos.
Et tu l'as dit à ton frère?
Jamais. Je le dis jamais à personne.
La maîtresse m'a mis du scotch sur la bouche. Les autres ont dit bien fait. T'avais qu'à pas parler. Ils sont cons, les autres. J'aimerais bien avoir des ciseaux avec des bouts pointus. J'aimerais bien avoir des ciseaux avec des bouts pointus, j'aimerais bien. Après, on allait dans la grande salle qui pue. Il caille toujours là-dedans. Dans mon verre, j'avais 12 ans. Pour être plus grande, je l'ai mise à l'envers. J'aimerais bien avoir des ciseaux avec des bouts pointus. J'aimerais bien avoir des ciseaux avec des bouts pointus. J'aimerais bien. La grosse bonne femme nous a servi. Encore de la soupe à l'alphabet. Moi, je voulais pas en avaler. La grosse bonne femme, elle m'a forcé. Exprès, j'ai tout dégobillé. J'aimerais bien avoir des ciseaux avec des bouts pointus. J'aimerais bien avoir des ciseaux avec des bouts pointus. J'aimerais bien avoir des ciseaux avec des bouts pointus. J'aimerais bien.
Non, j'ai tiré une balle dans ma vie, pas deux. Une seule balle, et ça a suffi pour tuer quelqu'un.
Un assassin? Le gars qu'on vient d'entendre, un assassin? On tue un homme, on est un assassin? On tue des milliers d'hommes, on est un conquérant? On les tue tous, on est Dieu? Jean Rostand avait vu juste. Tuer? Les raisons de tuer, on les a trouvées. On a essayé de domestiquer, on a essayé d'apprivoiser, de ranger, de classer. Il y a la raison d'État qui va faire qu'on tue. On va tuer au nom de l'État. L'État, le monopole de la violence et de la mort. Peine de mort, guerre. On va effectué au nom d'une croyance, un sacrifice rituel. On va tuer au nom de l'intérêt. Je tue ma grand-mère pour avoir l'héritage. On va tuer au nom de l'amour, le crime passionnel, hélas, qui tente à disparaître, qui était pourtant une jolie façon de posséder la victime ou d'ôter celui ou celle qui faisait obstacle au désir. On tue au nom de la justice, je parlais des exécutions capitales, mais on peut tuer aussi au nom d'une cause, noble ou non. Ça, c'est les raisons, comme on dit, les mobiles, comme dit la justice. Le tueur peut tuer parce que ça se fait autour de lui. Il tue, alors parce qu'on tue, ou bien il a commencé à tuer, alors il continue, le sang appelant le sang. On se tue aussi par délectation, pour le plaisir. On tue par impulsion, une violence irréfléchie. On tue par lâcheté sur des êtres vulnérables, des enfants, des malades, des prisonniers. On tue aussi parce qu'on est un déséquilibré, on souffre de schizophrénie ou de paranoïa. Mais vous sentez bien, et on sent tous et on sait tous profondément, que toutes ces explications, qu'elles soient d'ordre psychologique ou celles que la justice a mises au point pour créer des différences de grandeur, ne répond pas à ce qu'il y a au fond de nous et que nous savons bien, c'est-à-dire cette pulsion possible de tuer. Il se pourrait, si on en croit les psychologues et les psychanalystes, que le plaisir, la jouissance physique et le désir de tuer seraient du même ressort. Ce serait Eros et Thanatos, qui seraient les deux visages de la même figure. Qu'en est-il dans nos vies, à nous ? Est-ce que nous savons que nous avons eu envie de tuer à un moment ou à un autre ? On l'a peut-être conçu, mais on l'a oublié. On l'a conçu et on l'a fait. On est passé à l'acte. Ou bien, on est entre les deux. On l'a conçu, mais on n'est pas allé jusqu'au bout. Voilà la question qu'Isabelle Magos-Grenotier a posée à quelques personnes.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé de penser à tuer quelqu'un ?
Ça m'est arrivé. Oui, ça m'est arrivé tout à fait. C'était il y a très longtemps, je pense, je devais avoir une quinzaine d'années à peu près, et où ma mère m'énervait beaucoup. Donc j'ai eu envie de la tuer.
Comme ça ?
Comme ça. D'accord. Un soir, tard. Et bon, voilà. Chose qui arrive, pas forcément totalement maîtrisable, même pas maîtrisable du tout.
Et alors, il y a un moment où vous l'avez en face de vous et vous dites qu'il faut faire quelque chose ?
Non, je dis rien du tout. Je le prends par le cou et je lui serre le cou. Il n'y avait pas un bruit. Elle n'a du reste pas fait un bruit, mais enfin bon. Avec le cou serré à deux mains. Par un mec de 15 ans, de 85 kilos, de 90 kilos, effectivement, ça fait pas vraiment de musique, quoi.
Ça dure longtemps ?
Non, je me rappelle pas. J'ai l'impression aujourd'hui que ça a duré très longtemps, mais je suppose que ça a été extrêmement rapide. Juste le temps que je vois que les couleurs du visage changeaient, et d'avoir tout d'un coup une trouille horrible, donc d'arrêter immédiatement. Donc oui, c'est sur la variation de couleur que ça s'est arrêté. Je veux dire, d'un coup, j'ai dit, tiens, ma mère a la tête violette. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe tout simplement, effectivement, que je commence à avoir un peu de mal à respirer, quoi. Et voilà, quoi. On n'a absolument jamais reparlé. On a reparlé un peu le lendemain, posé les choses. Le prix, nous en pu reparler. Mais bon, ça s'est effectivement fait comme ça. Très rapidement et sans préparation. Tac, et pof. Puis il y a quand même sur l'instant une espèce de vide qui se fait, de volonté que le truc aille jusqu'au bout, heureusement, je veux dire. Ça n'a pas été le cas. Fort heureusement, je m'entends très très bien avec ma mère, pareil. Mais bon, c'est un truc, oui, effectivement.
Ils savent ça, vos enfants ?
Les enfants, ils savent pas ça, non. Je pense que je leur raconterai si un jour ils ont envie de me tordre le cou. Ou à leur mère.
Vous n'en avez pas parlé à trop de monde ?
Je n'en ai pas parlé à trop de monde, non. C'est pas vraiment forcément d'abord un truc dont je me vante, loin de là. J'aurais dû en parler, non, il n'y a plus rien. C'est à 4 ou 5 personnes. Depuis ce temps-là, ça fait pas tellement plus, quoi. C'est pas un truc qu'on raconte à table comme une bonne plaisanterie de soirée. Tant que ça reste dans la tête, ça reste encore bon, je veux dire. On peut le partager avec les autres. Je veux dire, à partir du moment où le cou a été brusquement serré, c'est plus du tout la même chose, quoi.
Et vous avez pris conscience que vous étiez capable de tuer quelqu'un ?
Ouais, tout à fait. À partir de ce moment-là.
Par surprise, quand il dormirait, ben, je prendrai les ciseaux et puis je le tuerai.
Ah oui ?
Oui.
Ouais, mais ça, c'est des mots. C'est des choses qu'on dit comme ça, en l'air. Les paroles, c'est du vent. Le passage à l'acte est quand même assez rare. On a quoi, en gros, dans notre hexagone, autour de 2000 assassinats chaque année. Et alors, pour des raisons diverses, je les évoquais, jalousie, alcoolisme, des histoires comme ça. Mais le mobile passionnel est très, très rare. Il est en régression. 200 crimes passionnels, 250 par an. Cette pulsion meurtrière abonde chez tout venant, chez chacun d'entre nous. Elle se, heureusement, se manifeste pas, n'arrive la plupart du temps pas à la conscience. Elle est muselée au fond, mais peut dire s'il est tout à fait étranger à cette pulsion, s'il a été étranger toute sa vie à cette pulsion, à ce délire, de près ou de loin? Est-ce que vous avez eu un jour envie d'y aller?
Come on! It's me, Sam, remember? Tonight's our night. We still have time for a few kisses before the police get me. You'd love that, wouldn't you? You're crazy about me, don't you remember?
Sam, you're out of your head! I should have known that long ago. Please be reasonable!
Come on out, my darling!
Vous avez déjà eu envie de tuer quelqu'un?
Oui. Waouh. Tuer quelqu'un, c'est pas tellement l'envie qui manque. L'idée, c'est surtout de savoir comment y résister. Cette envie. Oula, si j'ai déjà eu envie de tuer quelqu'un. Oui, ça m'est arrivé, mais je m'attendais carrément pas du tout à ce type de saloperie de question. Pour parler clair. Ouais, je suis pas obligé de dire qui, si?
Non.
Bon.
Quelqu'un.
Oui, c'était quelqu'un. Et ça l'est resté. Mais oui, j'ai eu envie de tuer sur des... C'est un priori, je pense que c'était plutôt pour moi par rapport à certaines formes d'injustice qui m'étaient... qui m'étaient appliquées. Le milieu social, c'est la DAS. Ça, c'est... La DAS, on appelle ça un mot... En fait, on appelle ça aussi bêtement un orphelinat. Voilà. Ça peut être compliqué d'avoir à expliquer le pourquoi de l'envie de tuer quelqu'un. La cause, on dirait que ce serait... des choses qui sont faites à un enfant et que c'est... enfant en a marre de le subir. Ça arrive petit à petit, ça charge petit à petit, ça grossit cette espèce de violence.
Quel âge vous aviez?
7 ans, 8 ans.
8 ans. Je sais que l'idée a été tellement bien imaginée avec les cas de figure inventés et ainsi de suite, qui fait que oui, c'était presque comme si ça avait été passé à l'acte. Ce que je sais, c'est que la personne a compris que ça aurait pu lui arriver.
Comment elle a compris?
Par une sorte ou une forme de démonstration.
Laquelle?
La mienne. Le mime d'une action qui aurait pu aller plus loin. Dans un orphelinat, il y a un réfectoire. Pour manger, il y a des couverts. Les couteaux sont ramassés, sont durement sanctionnés, s'il en manque. Les cuillères, non. Qu'on n'imagine pas qu'on puisse faire quelque chose avec une cuillère. Or, une cuillère en aluminium, ça s'aiguise par terre. Et ça devient tranchant. Et ça a une particularité, c'est que ça se met très très bien dans le dos, coincé par la ceinture. Voilà. Après, il suffit d'avoir le courage. À un moment donné, quand vous prenez la gifle de trop parmi les milliers que vous avez pris, de le sortir et de mimer le geste, mais avec la cuillère dans l'autre sens, et de ne pas toucher la personne.
Vous l'avez fait ?
Oui. Ça s'est passé dans la cour de récréation. Tout le monde avait vu.
Et il y a eu des sanctions après ?
Oui, bien sûr. Tu les as assumées. Mais quand on est sanctionné dans ces institutions-là, on en ressort grand, victorieux. Comment? Et après, on vous fait plus chier, quoi. J'avais eu le courage, entre guillemets, d'arrêter une chaîne de salisation permanente. J'avais le courage de le faire et j'avais 8 ans.
Les criminels de paix, petits ou grands assassins, les dérisoires artisans du fait divers quotidien, ne tuent que leurs prochains. Les criminels de guerre détruisent leurs lointains. Et par tous les moyens, disait Jacques Prévert. Et c'est vrai qu'il a toujours fallu qualifier le meurtrier. On dit un meurtre monstrueux, où l'assassin était un dégénéré, un taré, un possédé. Il faut le qualifier comme si assassin n'allait pas de soi. Il a toujours fallu symboliser le meurtre, le cantonner à la violence symbolique, symboliser la violence. Aristote disait déjà que le spectacle du crime libère les pulsions agressives et ne les édifie pas, contrairement à ce que croient certains face à leur télévision. Le pouvoir, en tout cas, a le monopole du meurtre, tout en fustigeant l'assassin. Monopole du meurtre. On pense tout de suite à la guerre ou à l'exécution capitale, mais ça peut être d'affamer des populations entières, de plein droit, avec la bonne conscience d'un côté, et de l'autre, faire mine de préserver la vie, voire même d'engager des capitaux et des actions pour préserver la vie. Tuer, ça peut être aussi pour des idées. Mourir pour des idées, ça va toujours avec le fait de tuer pour des idées. Et des idées, il y en a des bonnes et il y en a de mauvaises. Il y a des causes justes, il y a des résistances et puis il y a des folies.
Alors dans le parcours politique, oui, parce que ça c'est un sujet de réflexion que l'on avait, puisque je m'étais engagée politiquement à la Ligue communiste révolutionnaire. Au départ, c'était la Ligue communiste, et puis après 73, c'était la LCR. Et puis surtout, antérieurement, c'est un sujet de réflexion et de discussion que j'avais avec mon père. Mon père a été franc-tireur et partisan pendant la guerre, donc résistant. Et il s'est trouvé amené à tuer des gens. Et alors que c'était un homme très pacifique, qui avait beaucoup réfléchi sur la question, qui était communiste, engagé. Et pour lui, tuer quelqu'un lui paraissait une absurdité, même s'il avait fait la guerre. Il a été amené quand même à tuer des gens. Et on s'interrogeait, on se disait, comment, qu'est-ce que ça fait? Il avait horreur des détails. Mais il en parlait en disant que c'était pour lui une souffrance. Et qu'il y avait des choses qu'il n'oublierait pas. Et qu'il avait fait parce que c'était son devoir. Mais il était encore très touché. Il était terrifié par tous les morts qui l'accompagnaient. Surtout quand il s'agissait de personnes jeunes. Parce qu'il disait qu'on leur avait volé quelque chose et que c'était une grande injustice. J'ai surpris un jour une conversation où il racontait que la femme d'un résistant avait dénoncé son mari et le groupe où mon père était avait été envoyé donc chez cette femme qui s'est cachée sous le lit. Et je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais j'ai imaginé qu'ils avaient dû la tuer sous le lit parce qu'ils n'arrivaient pas à la sortir de dessous le lit. Et c'était terrible. C'était terrible. Ça me paraissait invraisemblable qu'il ait pu, lui, participer à ça. Et sur la fin de sa vie, il souffrait beaucoup de ces histoires-là. Donc, moi, j'ai déjà commencé à réfléchir à ce sujet-là, avec lui. Moi, je pensais sincèrement que je serais capable de passer aux actes si la situation se présentait, si ma vie était menacée, si la vie de mon mouvement était menacée, si par exemple il y avait un coup d'état de type Chili, qu'est-ce qu'on fait? On part à l'étranger ou bien on s'organise en clandestin? C'est ça. Et moi je pensais que je pourrais passer dans la clandestinité et me battre les armes à la main.
Bon. Les armes, vous saviez ce que c'était?
Non. Non, alors là, les armes, je me disais que plus tard, peut-être, tu pourrais me renseigner, mais non, les seules armes que j'ai touchées d'un peu près, c'est à la foire. Hein.
You talking to me? You talking to me? You talking to me? Well, who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Who do you think you're talking to? Oh, yeah? Huh? Okay. Listen, you screwheads. Here is a man who would not take it anymore. A man who stood up against the scum, the dogs, the filth. Here is someone who stood up.
Anne, j'ai tiré une balle dans ma vie, pas deux. Une seule balle, et ça a suffi pour tuer quelqu'un.
Now I see it clearly. My whole life is pointed in one direction. I see that now. There never has been any choice for me.
Durant 90 jours, Jacques a attendu son exécution. Il est le dernier condamné à mort en France pour meurtre. Avez-vous déjà envisagé de tuer? Avez-vous déjà commencé à tuer? Avez-vous déjà tué? Question.
Alors, normalement, lorsqu'on est armé, c'est bien l'intention de se servir de son arme.
Et vous, ça vous est arrivé?
Moi, ça m'est arrivé. Mais c'est sûr que Bon, si on se promène avec un calibre dans les poches, un jour ou l'autre, on sait qu'on va avoir à s'en servir. Et on ne sait pas dans quelles conditions, on ne sait pas ce qui va en déboucher. On ne veut pas le savoir. On peut le savoir. L'arme, quand on l'a sur soi, c'est pour se sécuriser. Mais on se ment. On sait bien inévitablement qu'un jour, elle va servir à agresser. Donc c'est en posant la question, effectivement, est-ce qu'un jour on a eu l'intention de tuer? On ne peut pas dire qu'on a eu l'intention de tuer, mais c'est une probabilité qui peut arriver. Et la preuve, c'est que moi, ça, elle m'est arrivée. Hein, j'ai tiré une balle dans ma vie, pas deux. Une seule balle, et ça a suffi pour tuer quelqu'un. Ça s'est passé en une fraction de seconde. Hein, les gens rentrent chez eux, pensent qu'ils sont cambriolés. Moi, je pense que c'est les flics qui rentrent. C'est bon, merci. On a le temps de rien voir. Moi, tout ce que je me souviens, c'est d'avoir dit quelques mots, lesquels je suis strictement incapable de m'en rappeler, d'avoir vu 36 chandelles, parce que le type m'a filé un coup de barre de fer sur la tête, d'avoir entendu une détonation, d'avoir respiré l'odeur de la poudre, de voir quelqu'un qui s'écroule, et ensuite je me suis enfui, moi. Ce n'est que le lendemain à la radio, effectivement, que je me suis dit, mais si, on commence à réaliser qu'on a tué quelqu'un quand on l'apprend. Moi, je me rappelle le matin, quand j'ai entendu la radio, la mort de ce type que j'avais jamais vu, en fait. J'aurais été incapable de le décrire, de savoir qui c'était. Je ne l'ai jamais vu. Je l'ai aperçu à contre-jour, dans les lumières des phares, la nuit. Bon, de dire, mais voilà, on est à la recherche des deux meurtriers. Déjà, quand vous entendez meurtrier, tu dis, mais c'est moi, ça. Et c'est là que tout le drame arrive. Parce que lorsque vous tirez, c'est pas comme... Il y a des choses, des sensations qui sont tout à fait différentes. Vous étranglez quelqu'un. Vous avez le contact direct. Donc là, vous la sentez la chose, vous la respirez, vous tuez. Hein? Donc là, vous ne pouvez pas tricher. Vous dites, oui, effectivement, je suis en train... Même si c'est sous la colère, sous l'alcool, mais dès qu'il y a le contact physique, hein, de corps à corps, vous tuez. Si c'est avec une arme, un couteau, un ciseau, un pieu, enfin tout ce que vous voulez, vous le ressentez aussi, parce qu'il y a le contact. Mais lorsque vous utilisez une arme à feu, il n'y a plus le contact. C'est pas vous qui avez tué, c'est l'arme. Et c'est après, quand les choses se calment, effectivement, que tout revient. Tout revient, et bon, vous prenez conscience de ce que vous avez fait, et vous commencez à vous dire, mais quand même, le type, il est mort, quand même. Et puis vous dites, mais puis vous revivez la scène. Et ce qui est terrible, c'est que plus vous revivez la scène, plus vous vivez une autre scène. Parce qu'en fait, au début, vous vivez la scène qui vous convient.
C'est laquelle?
C'est celle de l'accident. Vous dites, mais non, mais moi ça s'est passé comme ça, j'ai pas vu le tel gars. La balle, elle a ricoché, j'en ai tiré qu'une, j'ai pas tiré deux, elle a été dans le canon. Et on cherche tout, on cherche tout. Et le problème, c'est qu'à force de vous passer la scène qui vous convient, vous pouvez plus vous rappeler de la véritable scène. Ce qui fait que 30 ans après, en fait, vous savez pas. Vous savez pas et vous commencez à douter. Vous dites, mais attendez, ça se trouve, mais j'ai vraiment tué ce gars-là, quand même. On ne sait pas, parce que dans l'affolement, dans la précipitation, dans les 30 secondes, il y a une vie qui est partie, vous ne savez pas. Là, à ce moment-là, on raccroche à ce bout d'acier qui a été expédié, on raccroche une vie.
Et est-ce qu'une fois que vous êtes pris, vous vous dites, je vais payer, c'est normal ou...
Non. Quand vous êtes pris, vous dire, bon, je m'évade. Ah, bien sûr, c'est toujours la fuite. Tant que vous n'avez pas accepté ce que vous avez fait, non, vous allez vous évader. Moi, pendant des années, j'en ai réussi, puis j'en ai loupé. Ça a été les évasions. Parce que la nature de l'être humain ne fait pas qu'il va accepter d'être enfermé.
D'être enfermé ou il n'accepte pas non plus d'avoir été coupable.
Mais avant qu'il reconnaisse ce qu'il a fait. Des fois, il ne le reconnaîtra jamais. Il va maquiller son il va le minimiser, il va le transformer, il va se transformer de coupable en victime. Tant qu'il n'aura pas fait le repli sur lui-même, tant qu'il n'aura pas arrêté de se mentir à lui-même, il ne va pas évoluer.
Oui, un jour vous avez admis ça.
Oui, il y a un jour où j'ai admis ça, c'est quand j'ai attendu la guillotine pendant 3 mois. Donc là, vous êtes dans une situation qui vous oblige à réfléchir, qui vous oblige à vous accepter. Bon, et à partir de là, vous êtes obligé de donner la véritable valeur aux choses. Moi, depuis la maison de correction, depuis l'âge de 13 ans, la seule valeur qu'il y avait, c'était le fric. Bon. Et puis quand vous savez pas si le lendemain matin vous allez être guillotiné, vous dites non, il y a autre chose que le fric. Parce que vous pouvez pas vous suicider dans une cellule qu'on a la mort, c'est impossible, il n'y a rien. Et il faut, ce qui est grave, c'est qu'il faut malheureusement bien souvent des situations extrêmes pour débloquer. Pour aimer la vie, il faut faillir mourir.
Et est-ce qu'on a le sentiment d'avoir franchi quelque chose d'irréparable?
Si vous avez réalisé le meurtre, vous avez réalisé l'irréparable. On n'a jamais vu quelqu'un revenir de la mort, hein. Ça c'est clair.
Mais vous pouvez maintenant être en paix.
On n'est jamais en paix avec soi, mais lorsque vous avez pris la vie de quelqu'un, vous n'êtes jamais en paix. Quelles que soient les conditions, quelles que soient les circonstances, vous avez quand même prendre une vie, c'est quelque chose d'horrible, hein. Ce type-là, il avait rien fait. Bon, il y aura d'autant plus que je savais qu'il avait fait toute la guerre, etc. Bon, il avait gagné de vivre son train-train. Hein, bon. Ça, c'est une chose que vous ne pouvez jamais récupérer.
À travers les silences, les hésitations, les images fortes, récurrentes, à travers les récits qui nous sont confiés, on mesure la fragilité étonnante, si on avait oublié de s'étonner, du garde-fou. On mesure la minceur du parapet. Voilà une autre histoire, celle d'un homme traqué. La séduction absolue du mal, disait Kafka, c'est la provocation au combat. Voilà un homme traqué en ceci qu'il est journaliste, il est menacé et il doit être armé. Il a une arme et il vit sous cette menace et avec sur lui, contre son corps, son propre corps, cette arme.
Séparer les deux, c'est toujours le risque. Une balle de 9 mm. Tenez, vous la voulez en souvenir?
Oui, d'accord.
9 mm parabellum. Voilà, pour dans l'enceinte du travail, je sépare les deux choses. C'est pour pas qu'il y ait de problème, je garde le chargeur sur moi, je laisse l'arme. En disant qu'ici, a priori, on ne craint rien. Mais voilà, il y a des enfants, ça aussi, ouais. C'est compliqué. C'est la sécurité vis-à-vis des autres. Donc que personne ne s'en empare, on ne sait jamais, un coup de folie. Faut avoir ça sur la conscience non plus. Hein.
Ouais.
Donc faut penser à tout. Faut pas que les munitions et l'arme soient au même endroit lorsque vous êtes en sécurité. En revanche, dès que je sors, le chargeur est engagé, une balle dans le canon.
Et vous commencez à regarder partout.
Voilà, et lorsque la situation l'exige, la main est sur la crosse. C'est-à-dire que c'est déjà arrivé qu'en sortant du journal, une voiture arrive au ralenti ou une moto. À ce moment-là, l'arme sortie de l'étui, prête à faire feu.
Mais ça m'a intrigué ce que vous m'avez dit sur le fait que une arme, ça sort que pour tirer.
Oui. Oui, je ne l'exhibe. Enfin, à partir du moment où elle est visible, c'est que vous allez faire feu. Je la sors de l'étui, je la garde. Donc à l'abri d'un vêtement pour pouvoir la remettre ensuite sans créer de problème, sans faire monter de pression. En revanche, à partir du moment où elle est sortie, elle est exhibée, elle est visible de votre adversaire, c'est que vous allez vous en servir. Si vous vous en servez pas, faut pas la montrer. C'est une règle absolue. Ça veut dire que... Enfin bon, c'est dans les situations quotidiennes, ça veut dire s'il y a une bagarre, etc., et que vous voulez intervenir et que vous pensez sortir votre arme en disant ça va calmer tout le monde, c'est une erreur absolue. D'abord, ça risque de calmer personne. Ensuite, si vous n'êtes pas capable de vous en servir, ça veut dire que les gens vont vous venir dessus, vont l'attraper, vous la prendre, elle va se retourner contre vous. C'est... ça m'oblige, moi, à me détourner de ces situations conflictuelles.
Vous pensez que ça peut s'arrêter ou vous pensez que c'est impossible que ça s'arrête, cette situation?
Non, ça peut s'arrêter, ça doit s'arrêter. Et on fera en sorte que ça s'arrête.
Et c'est ce qui vous fait tenir ou...
Ça, c'est une bonne question. Moi, ce qui fait tenir, je crois que c'est l'envie de vivre. Hein. Je crois que c'est surtout ça. Ça, c'est une bonne question. On a du mal à se projeter dans un avenir ordinaire. Mais en se disant quand même que ça sera bien.
Les autres dans la rue, vous les enviez, alors, j'imagine.
Oui, ça m'est arrivé. Oui. C'est passé, quand il fait beau, de passer devant des terrasses de café, de voir les gens qui peuvent librement décider de s'arrêter de boire un demi, de flâner, de se mettre en terrasse. Alors que moi, je pouvais pas, quoi. Ou alors ça devient très compliqué. Moi, je peux rien improviser. Il faut que tout soit décidé, programmé, planifié. On peut pas vraiment improviser. Donc c'est un peu compliqué. Oui, il est arrivé que je me mette au vert, que j'aille très loin. Donc là, c'est faire une vie normale. Ouais. C'est vrai que c'est très agréable. Donc
ça reviendra.
Sans les armes.
Et l'entraînement que vous suivez, il y a...
C'est des entraînements à toutes les situations de tir possibles. Alors, ils ont tiré dans des cibles en carton, hein, sur des silhouettes. Mais il faut s'imaginer que quand il faudra le faire, ce sera des gens... Et je crois que je le ferai, sans problème. D'ailleurs, ce que vous disent les formateurs que j'ai au tout début, il s'est révélé que j'étais un excellent tireur, sans le savoir. C'est qu'on ne tire bien que quand on a une bonne part de haine, que j'ai. Et c'est en gros la haine qui guide le bras, quoi. Ça fait un peu monstrueux, mais... Et donc au tout début, c'est vrai que je me souviens très bien que je visualisais dans les cibles en carton. Pour moi, c'était l'agresseur, donc il n'y a aucun problème. Bon, et vous y allez avec tout ce que vous avez dans les tripes, et hop, ça rentre, c'est dedans.
Voilà, merci à tous. C'était une nouvelle diffusion d'un reportage d'Isabelle Magos-Grenetier qui avait été diffusé la première fois le 17 novembre 1998. Donc, une nouvelle version aujourd'hui. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas, j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission et faire les commentaires. Vous pouvez réécouter également sur là-bas.org, là-bas.org, là aussi, vous pouvez vous exprimer. À la technique aujourd'hui, Cédric Lalanne et Sophie Moreno, Coy Nguyen et Raphaël Moutard ont réalisé cette émission, assistée de Charlotte Perry. Quant à Agnès Lebot, elle attend vos messages sur le répondeur de la base J'y suis, dont le numéro est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Il me reste quelques secondes pour vous signaler la sortie d'un livre de Robert Castel, le sociologue Robert Castel, qui s'intitule « La montée des incertitudes » et qui a l'air tout à fait passionnant. Puis un autre bouquin qui me passionne beaucoup en ce moment, c'est un livre de Denis Colin qui s'appelle « Le cauchemar de Marx. Le capitalisme est-il une histoire sans fin ?» Problème. Point d'interrogation. Bub.